Europe 1. On de la traconte, code B, la suite de votre épisode.
Ce monsieur, il est parfaitement dans la norme. Il n'est pas connu pour avoir des troubles, il n'est pas connu pour être particulièrement colérique, apportant des difficultés quelconques. C'est quelqu'un qui a mené sa vie sans aucune aspérité.
Lynn Bonnet, avocate générale.
Il a une épouse qui est fragile, il a une fille qui est fragile. Aucun antécédent judiciaire, c'est le bon citoyen. Et à côté de ça, on a quelqu'un, donc c'est ça, c'est le personnage public. On a quelqu'un qui donc commet des agressions sexuelles sur sa fille, sa petite fille, et puis crée un plan quasiment machiavélique pour arriver à ses fins, puisque on n'est pas sur quelqu'un qui prend une arme à feu et puis d'un jour va assassiner. On est sur quelqu'un qui va voler des plaques d'immatriculation pour ensuite aller louer un véhicule, pour ensuite mettre de fausses plaques d'immatriculation sur ce véhicule. Après, on fait des repérages là où habitait la psychologue pour arriver grimé, pour commettre l'assassinat. Donc, on est sur quelqu'un qui est quand même extrêmement calculateur. Donc, on a ces deux personnalités, le bon grand-père, le bon père, bon travailleur, bon voisin. Et à côté de ça, cet homme qui agresse sa fille sexuellement, sa petite fille sexuellement, et qui va échafauder un plan sur plusieurs semaines pour parvenir à assassiner une jeune femme qui ne faisait qu'exercer son métier.
Albert Blanc l'a mûri pendant 12 jours. Ce projet a minutieusement préparé cette exécution à coup de multiples recherches sur Internet, de repérages. Tout était réfléchi.
Il y a un processus qui le mène à la commission de cet acte.
Maître Pierre Donghi, avocat d'Albert Blanc.
Initialement, il y a des discussions dans le huis clos familial sur le fait qu'il y a une psychologue qui a été avisée et qu'elle va potentiellement faire un signalement. Et lui, dans un premier temps, il pense à se suicider. Il l'envisage très sérieusement en disant qu'il ne veut pas affronter tout cela. Et en fait, il se dit que ce n'est pas la bonne solution, je crois, parce qu'il n'a pas envie que sa famille retrouve son corps, etc. En tout cas, il a l'idée d'un acte brutal, mais sans que ce soit vraiment très précis. Il y a un moment important dans le processus où il se retrouve tout seul, quelques jours avant les faits. Il passe une semaine tout seul. Sa famille est partie en voyage. Et pendant ces jours, je pense qu'il s'enferme complètement dans une folie. Sans vraiment imaginer précisément commettre les actes qu'il va mettre en place. Il est dans une forme de totale abstraction. Il voit le signalement comme une espèce d'objet indéfini. Il voit la dénonciation comme un objet indéfini sans imaginer qu'il y a des personnes derrière tout ça. Et il se dit, il faut que je trouve un moyen pour arrêter ce signalement, mais il a aucune forme de projection de ce qu'il va pouvoir faire précisément, des conséquences que pourront avoir les actes qu'il va commettre. Et moi, j'ai toujours un doute aujourd'hui sur ce qu'il pense vraiment faire quand il arrive dans ce cabinet. Je pense que le dessin, il est très flou.
Monsieur Blanc, je suis votre avocat. Vous comprenez que vos agissements sur votre fille quand elle était enfant et puis sur votre petite fille sont interdits, punis par la loi. Oui, ok, je sais. Mais c'est une histoire d'époque aussi. Aujourd'hui, vous êtes obsédé par ça. On fait la chasse aux sorcières. Mais bon, il y a quelques années, quand un homme mettait une main aux fesses d'une femme, bon, elle rigolait. Elle lui mettait une claque, mais elle allait pas lui faire un procès. Monsieur Blanc, je suis là pour assurer votre défense. Mais il faut que vous intégriez ce qu'on vous reproche. Vous êtes un homme intelligent. Écoutez, voici la copie de votre dossier. Lisez-le.
Je lui mets la tête dedans en lui montrant le dossier, vraiment, en lui montrant les photos, en lui parlant de la vie de cette jeune femme. Je pense que je lui dis ce qu'il n'a pas envie d'entendre, et en réalité, je pense que c'est ce dont il a besoin. Parce que c'est peut-être une des premières fois où il se confronte vraiment aux raisons réelles et profondes de son acte. Il cherche à comprendre. Et je pense que je l'aide à comprendre, pas que moi, puisque en réalité, avant de le rencontrer, il a près de 1 an de thérapie derrière lui en détention, et ça, ça l'a beaucoup aidé aussi.
Code B3, expertise psychiatrique du docteur François Danet. Albert Blanc dit ne pas avoir été victime d'agression sexuelle. Toutefois, il précise qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, un homme lui a demandé de lui montrer son pénis. Albert Blanc dit avoir eu sa première relation sexuelle à l'âge de 11 ans avec 2 filles de son âge. Elle l'aurait sollicité afin qu'il les pénètre avec son pénis.
En réalité, il y a, à mon sens, dans l'existence de M. Blanc, deux fils temporels qui sont parallèles et qui ne se touchent jamais. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une espèce d'insertion professionnelle, une création de vie familiale assez classique, très normée, et en même temps, une succession de traumatismes qui l'occulte, à chaque fois, à chaque étape de son existence, en fait.
Monsieur Blanc, vous avez subi des attouchements, hein, des agressions sexuelles. Ça a dû vous traumatiser, tout ça, Christian. Non, non, c'est rien, vous racontez n'importe quoi. Le gars, il m'a juste demandé plusieurs fois de lui montrer mon robinet, mais ça m'a pas traumatisé non plus. Et puis j'avais 11 ans, et ma sœur, elle jouait juste avec moi. Elle était plus grande, elle avait 20 ans. Elle me disait, viens, on va faire entrer la petite auto dans le garage. Alors, je faisais entrer la petite auto dans le garage, et puis c'est tout. Ça m'a pas traumatisé non plus. Je l'ai même pas dit aux experts, ça. Enfin, pourquoi faire?
Moi, l'agression incestueuse dont il est victime, il en parle à aucun moment aux experts. Et au détour d'un échange comme ça, en parloir, il me raconte ça. Mais comme une anecdote, sans mesurer la gravité des faits. Et quand on se pose, et quand j'essaye de lui expliquer qu'il vient de me révéler des faits criminels, il en mesure absolument pas la gravité. C'est pas qu'il en a jamais mesuré la gravité. C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu ce doute-là, et que par cette absence de réaction totale des proches et de la justice, il l'a normalisé. Lorsqu'il commet les premiers faits qui seront révélés par la suite sur sa fille, il y a une nouvelle fois une absence d'intervention judiciaire. Donc une nouvelle validation. Lorsque l'intervention de Madame de Valert arrive, elle arrive sur une personne qui ne comprend pas, qui ne peut plus comprendre pourquoi on doit révéler ce genre de faits.
Code B5, expertise psychologique de Valérie Fournier. L'organisation de la personnalité d'Albert Blanc apparaît avoir été troublée par une série de psychotraumatismes infantiles de nature psychosexuelle, apparemment subis à un âge prépubère. L'absence de reprise sociale et judiciaire des faits subis semble avoir entravé l'intégration de la loi symbolique. La loi est comprise mais pas intégrée, et le surmoi interdicteur ne fonctionne pas chez lui.
L'absence d'analyse, l'absence de traitement judiciaire est la graine qui a généré le drame. Je suis convaincu que s'il y avait une intervention judiciaire lorsqu'il a été victime de ces faits lorsqu'il était enfant, on n'en serait jamais arrivé là. Je parle à quelqu'un qui, depuis l'âge de ses 6-7 ans, depuis qu'il a été agressé sexuellement, a normalisé la question de l'agression sexuelle pour se protéger. Et en la normalisant, il crée les conditions de sa répétition. Puisque quand on normalise un acte, alors au départ, on le fait en tant qu'enfant de façon involontaire, c'est-à-dire qu'en fait, on veut préserver ses proches, on veut préserver sa propre construction, et donc on se dit, bon, il m'est arrivé quelque chose, je n'arrive pas à l'analyser, je vais le considérer comme normal ou pas problématique. Et c'est évidemment l'intervention des personnes majeures, l'intervention de la justice qui permet d'amener le caractère anormal de l'agression sexuelle. Et en fait, M. Blanc, il est resté bercé dans cette normalisation pendant 70 ans. La personne qui intervient et qui m'intervient à la répétition, c'est Mme Meuwelert, c'est personne d'autre. Sans elle, les faits sont jamais révélés. C'est cette intervention là, elle, qui crée la libération de cette parole et qui crée la possibilité de traiter la situation de M. Blanc. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que Mme Meuwelert, dans ses carnets, avait appréhendé ces questions-là. Elle avait réfléchi à ce processus et elle avait réfléchi au fonctionnement de M. Blanc sans même le rencontrer. Hein. Elle avait fait un certain nombre d'analyses sur les conséquences de la non-révélation de l'inceste qui entraîne un certain nombre de drames, sans savoir évidemment que ce drame allait la toucher très directement.
Deux ans après l'assassinat de Morgane Novalérès, Albert Blanc est jugé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie. Il a 77 ans. Il a en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Faites entrer l'accusé.
C'est un vieil homme qui arrive dans la salle d'audience. Il a une démarche de vieil homme, donc il est assez faible. Il est perdu, puisque c'est une salle assez grande. Il ne sait pas exactement où regarder, alors il me voit, c'est la seule personne qu'il connaît. Et donc, en fait, il se rattache beaucoup à moi parce que, vu qu'il l'entend mal, il ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et au début d'un procès, il y a beaucoup de questions de procédure, voilà, il y a les tirages au sort, et ça, il ne comprend pas exactement tout le sens de tout ça. Je pense à donner une mauvaise image de lui et de ses réactions par rapport à certains intervenants. C'est-à-dire que certains ont pu considérer qu'à certains moments, malgré la lourdeur de ce qui se tenait, malgré le caractère extrêmement intense sur le plan émotionnel du procès, il avait des réactions qui étaient assez peu marquées, mais parce que simplement, il n'entendait pas ce qui se passait.
La veille, il s'est douché avec ses appareils auditifs, il n'entend rien. Enfin bref, il y a eu un micmac, j'ai plus tout le détail. Le président l'a fait sortir du box. Au moment où son épouse dépose, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas aussi pour sa fille, il est positionné quasiment face aux témoins, c'est-à-dire qu'il est assis sur une chaise et les témoins sont debout à la barre, face à la cour, et Albert Blanc est dans leur champ de vision en réalité. Il n'est pas habituel effectivement que l'accusé soit positionné dans la salle d'audience à un endroit où il est en lien visuel, au moins direct, avec les témoins. Même après l'énormité de ce qui s'est passé, il paraissait toujours comme un personnage absolument central de cette famille. Alors, j'ai parlé de tyran domestique, en tout cas quelqu'un qui va verrouiller la famille, va faire en sorte que tout le monde soit rallié à sa cause. Les paroles de ses proches, chacun cherchait l'aval d'Albert Blanc en disant « Est-ce que c'est bien ça qu'il fallait que je dise ?»
Un des personnages, si je puis me permettre cette expression, le plus ambivalent du procès, c'est effectivement la mère, puisque à l'audience, elle est écrasée par cette responsabilité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est incapable de dire un mot. Elle est dans une relation thérapeutique avec sa psychologue. Je crois qu'elle est effectivement extrêmement affectée. Et elle se retrouve dans un conflit complètement majeur de protection de sa fille, de sa psychologue et des soins qu'elle avait entamés qui sont mis à néant, de son père qu'elle a un peu armée sans le vouloir, puisque c'est elle qui va lui dire que le signalement va avoir lieu, qui lui dit quel jour il va avoir lieu. Son père va aussi s'immiscer dans ce qui se passe au cours des séances. Et elle ne va pas cesser d'aller chez sa psychologue pour autant. Ça prouve bien qu'elle était dans une vraie relation thérapeutique par rapport à ça. Et moi, le sentiment qu'elle m'a donné à l'audience, c'est d'être vraiment totalement perdue. Et à l'audience, elle est incapable quasiment d'aligner quatre mots. C'est-à-dire qu'elle est écrasée par ce qui se passe. Et je me souviens que je lui pose la question de lui dire qu'est-ce qu'elle a conscience qu'elle-même, elle a été victime, et de la voir incapable de me répondre.
Bonjour mademoiselle, je vous remercie de venir aujourd'hui et d'avoir trouvé la force de témoigner devant la cour d'assises. Qu'avez-vous spontanément à nous dire ? J'étais une patiente Morgano Valérez. J'étais dans la salle d'attente quand elle a été tuée. Je venais à peine d'arriver.
Elle a dit à l'audience, et en vous le redisant aujourd'hui, j'en ai encore des frissons, elle a dit « Morgane, elle est morte ce jour-là, et c'est dramatique, mais elle a sauvé au moins quelqu'un, elle m'a sauvé moi. » Et on était estomaqués de la beauté de ce qu'elle a pu dire pour Morgane, du fait que c'était... Et elle a dit « Morgane, si Albert Blanc était venu la voir, elle l'aurait aidée. Elle l'aurait aidée. » Je vous dis ça et je vais pleurer.
L'avocate a insisté sur le traumatisme connu par le mari associé de la psychologue. Lui qui était présent au moment des faits, sa femme a expiré dans ses bras ce 26 août.
Maître Danguy, vous avez la parole pour la défense d'Albert Blanc.
J'essaie de parler à ses enfants en expliquant que le silence infusait encore la famille de M. Blanc, qu'il y avait encore beaucoup de difficultés à parler de ces sujets-là, à parler des agressions sexuelles, et que si ce procès avait un sens, c'était de transmettre la parole de Mme de Valers, qui nous explique dans ses écrits qu'on ne peut pas faire autrement que de parler, qu'on ne peut pas faire autrement que de dénoncer, parce que c'est par cette dénonciation qu'on guérit les victimes, qu'on guérit les auteurs, et qu'il existe partout encore aujourd'hui des personnes qui relaient le message de Mme de Valers en essayant d'aider les victimes, en essayant d'aider les auteurs pour qu'on mette un terme à cette répétition.
Albert Blanc est condamné à 30 ans de prison pour l'assassinat de Morgane Novalérez. Et 6 mois plus tard, il écope de 2 ans de prison supplémentaire pour les agressions sexuelles commises sur sa petite fille. Sachez que le fils de la psychologue, Morgane Novalérez, a été reconnu pupille de la nation, ce qui est la reconnaissance que sa mère est morte en servant la France. Voilà, terminé pour aujourd'hui avec ce numéro dont de la raconte dans sa version Côte B. Rédaction en chef de Côte B, Guillaume Maury. Enquête aujourd'hui de Marion Douzet. Réalisation Célestin Muller.
Retrouvez On de la raconte Côte B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.